Alors, nous souhaitons la bienvenue à tous les êtres de lumière collaborant avec nous ce soir. À tous ceux présents dans cette pièce. À tous ces êtres de lumière aussi bien dans la chair que sous d'autres vibrations. Et c'est dans cet accueil que nous souhaitons la bienvenue également à ce véhicule de conscience, à cette conscience supérieure qui nous est reflétée par le chariot blanc. Merci. Voilà, c'est ce qu'on appelle un contact.
Le choc du futur.
Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir dans les Laurentides, dans cette partie du pays du Québec que l'on appelle Saint-Sauveur. Et dans ce coin de pays, bien, nous avons décidé, depuis déjà un bon bout de temps, mais c'est ce soir que ça se matérialise dans la matière, de parler plus précisément du mythe de la mission.
Vous aviez oublié la mission, André?
Oui, il y a un bout de temps que j'ai oublié ça.
C'est bien. Alors, nous commençons d'abord par vous offrir un commentaire d'ouverture, après quoi nous donnerons un enseignement et nous répondrons à vos questions. Le commentaire sera le suivant. Un jour, il y avait des gens qui habitaient dans un village. Ils étaient près les uns des autres et savaient s'entraider. Cependant, ils vivaient presque toujours dans l'inquiétude, parce qu'ils étaient sur une terre qui était si friable que lorsque se présentaient des tremblements de terre, presque tout ce qui était là s'écroulait. Et voici qu'un jour, sans qu'on l'ait désiré, bien sûr, ceci se produisit. Les autorités, qui étaient très compréhensives, décidèrent d'allouer à ces gens habitant dans ce village une terre plus éloignée qui semblait plus solide. Et on offrit même à toutes ces personnes des matériaux de construction. À chacun, on alloua un espace et on leur dit « Allez maintenant construire votre propre demeure. » Alors, tous se rendirent dans le village. Mais tous n'étaient pas habilités à construire des demeures. Il y avait pourtant parmi eux un homme d'une certaine jeunesse qui, lui, était un entrepreneur en construction. Alors, il rassembla tout le monde et il dit « Moi, je peux vous donner tous les conseils dont vous avez besoin à tous les sujets. » Et alors, les gens se ruèrent sur lui. Les uns dirent « Moi, je ne sais pas comment couler un solage. Moi, je ne sais pas non plus comment faire des ouvertures de la maison. » Moi, je ne sais pas comment faire le filage, ou la tuyauterie, ou poser le toit, et ainsi de suite. Et alors l'homme allait de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Et chaque soir, il revenait dans sa petite tente et il était fier de lui. Il se disait, « Enfin, les gens m'applaudissent, car dites-vous bien que lorsqu'il passait dans le village, tout le monde le complimentait. » Il était si heureux qu'il se nourrissait presque uniquement de ses compliments. Mais lorsque l'hiver fut venu, lui, il n'avait pas construit sa maison. Et le sol devenait très froid, et alors il n'arrivait pas à creuser. Mais les autres lui dirent, « Nous n'avons pas le temps, nous-mêmes nous n'avons pas fini la finition intérieure de nos maisons, alors tu devras attendre au printemps prochain. » L'homme, alors, passa tout l'hiver sous sa petite tente. Parfois, l'un ou l'autre l'invitait, pourvu que ce n'était pas pour trop longtemps. Et alors, l'homme était rempli de colère et il se sentait victime du sauveur qu'il avait été. 200 ans plus tard, il revint dans le même village, près de la montagne, avec les mêmes autorités, le même sol friable et les mêmes tremblements de terre. Ceci se produisit à nouveau, avec le même scénario, mais cette fois, il avait des mémoires. Et alors, il dit, « Moi, je construis ma maison pour moi, et je ne veux donner de conseils à personne. » Et alors, il s'enferma, il se coupa de toute relation avec les autres, et il construisit sa maison, il ferma les portes, et il dit qu'il s'arrange. Pourtant, 200 ans plus tard, il revint à nouveau dans le même village, presque avec les mêmes citoyens, avec les mêmes conditions de terre friable et de tremblement de terre. Mais il avait évolué et il se dit à l'intérieur de lui-même, « J'ai des choix à faire. Ou bien je sauve les gens, ou bien je me coupe des gens, ou bien je m'enseigne en leur enseignant. » Alors il dit aux gens, « J'ai de la connaissance au niveau de la construction, mais comme je ne veux pas faire à votre place ce que je sais que vous avez la sagesse de faire pour vous-même, alors ceux qui auront besoin de conseils viendront au moment où moi-même je m'applique à la tâche. » Alors pendant qu'il coulait son solage, il apprit à ceux qui voulaient le savoir comment creuser, mettre les panneaux pour recevoir le béton. Et chacun partait, allait chez lui et il se disait, « C'est merveilleux, c'est comme une école, j'apprends à construire une maison. » Et tôt le lendemain, il revenait chez l'homme. Et alors tous, ils apprirent comment faire une maison. L'un d'eux lui dit, « Tu n'as pas de chance, tu étais le meilleur menuisier en construction, maintenant nous le sommes tous. » Alors l'homme lui répondit, « Tu sais, si j'ai su partager ceci avec vous, c'est que quelque part, j'aurai d'autres tâches à accomplir. » Et ce jour-là, Melchisédek descendit sur le plan terrestre. Il alla s'asseoir à sa table et il lui dit, « J'aurai besoin de gens qui travaillent avec moi dans la hiérarchie. Tu es consentant ?»« Bien sûr, dit l'homme, mais je ne veux pas travailler avec mon ego. Non pas que je le nie, mais que quelque part, il m'a tellement conduit. » Melchisédek lui dit, « Tu te trompes, il a été un partenaire, même si tu ne le croyais pas. Explique-moi, dit l'homme. Tu vois, dans la première incarnation, tu as travaillé avec ta personnalité, qui avait besoin de louanges, qui avait besoin d'appréciation, qui avait besoin d'être reconnu. Dans ta seconde incarnation, tu as travaillé avec un autre niveau de toi-même, avec ton individualisation, et tu avais besoin de connaître la personnalité pour connaître l'individualisation. Et tu avais aussi besoin de connaître l'individualisation pour pouvoir devenir service à tes frères en étant service à toi-même. » Alors l'homme lui dit, « Je comprends ce que tu m'enseignes. Alors si tu le comprends, lui dit Melchisédek, va et enseigne-le à nouveau. Et chaque jour où tu l'enseigneras, c'est à toi que tu l'enseigneras. Mais les autres, par la résonance, recevront l'enseignement que tu donnes. » Et c'est le commentaire que nous avons à vous offrir. Nous ajoutons, en termes d'enseignement, et de renseignement si vous préférez, que si vous voulez reconnaître à l'intérieur de vous, si vous êtes dans l'énergie du Sauveur, ou si vous êtes dans l'énergie d'individualisation, ou si vous êtes en train de vous préparer au service pur à vos frères, observez ce que votre ego demande en contrepartie. S'il est exigeant, s'il veut que vous receviez la louange, s'il veut que vous soyez apprécié, s'il veut que vous soyez reconnu, s'il veut que vous soyez un maître et un gourou, nous vous dirons quelque part, reconnaissez qu'il vous reste encore du travail à faire au niveau de l'individualité et de la personnalité. Car ces étapes ne sont pas séparées les unes des autres. Elles sont interreliées, elles s'entrecroisent et elles se nourrissent et elles s'éclairent réciproquement. Mais lorsque vous arrivez à un certain niveau de conscience, les choses sont claires instantanément et vous pouvez accomplir absolument les mêmes gestes que ceux que vous accomplissiez lorsque vous étiez dans le Sauveur, mais là, vous ne le faites plus avec la même conscience, et ceci émet une vibration différente. Alors, peu importe là où vous vous retrouvez, jour après jour, ne vous jugez pas, ne vous condamnez pas, ne dites pas « je suis encore à la merci de l'ego, je suis encore à la merci de mon individualisation ». Tout cela fait partie de la trajectoire et est nécessaire. Plus vous allez vous abandonner, plus vous allez être dans l'ouverture face à vous-même et plus vous allez faire sortir le jugement de votre maison, nous vous dirons plus cette énergie impersonnelle va s'établir en vous. Et maintenant, nous serions prêts pour répondre aux multiples questions.
Alors, comme première question, voulez-vous définir énergétiquement le mot « mythe »
Bien sûr, nous le ferons énergétiquement. Un mythe, c'est quelque chose qui a été cristallisé, c'est-à-dire une croyance qu'on a cristallisée dans l'énergie. Et nous vous dirons, parce qu'elle est cristallisée dans l'énergie, elle vous ramène toujours au point de départ. Alors, vous avez le pouvoir, avec votre forme pensée, de faire fondre ce cristal, d'en faire du cristal liquide et de le laisser couler dans votre système nerveux. Il sera de grand service. Et surtout, nous vous dirons, ne vous créez pas de problème avec les mots. Laissez-les couler dans l'énergie.
Est-ce un mythe pour moi de croire qu'un jour très rapproché, je vivrai dans les Laurentides?
Nous vous dirons, entre un mythe et un élan profond qui est à l'intérieur de vous, il y a une différence. Si vous sentez à l'intérieur de vous que vous êtes attiré par ce territoire, assoyez-vous face à vous-même et voyez quelle est la motivation qui veut vous entraîner vers cette région. Si vous voulez y venir parce que quelque part vous idéalisez la région et que vous avez l'impression que vous allez évoluer davantage à Saint-Sauveur qu'ailleurs, là, nous vous dirons, vous êtes dans l'illusion. Mais si c'est un mouvement de l'âme qui est à l'intérieur de vous et qui vous appelle dans cette énergie, ne vous posez pas de questions et suivez ce mouvement sans le taxer de mythe ou le taxer de quoi que ce soit.
Alors, depuis que je suis toute petite, que je sens au plus profond de moi que j'ai une mission à remplir sur cette terre, dans ma présente incarnation, je me suis interrogé à plusieurs reprises depuis ce temps sur ma mission. Pouvez-vous m'éclairer et me dire si présentement dans ma vie il y a des signes qui me rapprochent d'elle et quoi faire pour y arriver? Merci à vous, amis de lumière. Je vous rends gloire et vous offre une pure émeraude d'amour, de lumière et de paix.
Alors, nous recevrons l'émeraude, nous la divisons en particules et la posons sur les fronts de chacun ici. Merci beaucoup pour ce cadeau global. Nous allons vous dire que lorsque vous avez à l'intérieur de vous ce sentiment, depuis que vous êtes un enfant, que vous avez une mission, vous ne vous trompez pas. D'abord, cependant, ce que vous devez comprendre et saisir profondément, c'est que la mission, c'est vous. La mission, c'est de devenir la totalité du divin que vous avez à accomplir dans cette vie. Et nous dirons, il se peut fort bien que cette vie vous entraîne quelque part, qui soit un peu un ailleurs d'ici. Nous ne voulons pas cependant vous créer, nous dirons, des polarisations pour le futur. Alors, restez bien dans le présent. Écoutez ce mouvement qui est là depuis votre enfance et qui vous dit « Je sens un appel à l'intérieur de moi ». Cet appel, c'est l'appel du royaume. C'est l'appel de l'actualisation de votre être dans la totalité de la lumière. Alors, si vous mettez le focus sur cette lumière qui est au centre de vous et que nous appelons la semence du divin, nous vous dirons, là, cette semence, elle va éclater à l'intérieur de vous. Elle va prendre forme, elle va prendre expansion. Et ce qui est de la tâche extérieure va se manifester sans même que vous ayez besoin de savoir quand, comment, pourquoi, de quelle façon. Alors, mettez votre focus sur cette lumière à l'intérieur de vous, sur ce que vous appelez ce désir de la mission. Mettez ce mot « mission » en dehors du mot « sauveur » et demandez à votre âme supérieure qu'elle vous fasse accomplir le service pur dans un état de détachement absolu de tout ce qui est. Et si vous êtes dans l'état de détachement, vous allez même vous détacher du mot « mission ». Et vous allez tout simplement couler dans l'énergie de l'actualisation de votre être. Vous savez, votre mission, cela peut être par amour de bien peler des pommes de terre. Cela peut être par amour de bien faire la récolte des déchets. Cela peut être par amour de bien laver la vaisselle. Nous vous dirons que la race humaine n'a qu'une seule mission, celle d'aimer. Si pour aimer, vous avez besoin d'aller en politique, ou vous avez besoin d'aller en nursing, ou vous avez besoin d'aller en médecine douce, ou vous avez besoin d'aller au Tibet, allez n'importe où. Mais ce qui est important, c'est d'aimer. Saint Paul vous a déjà donné cet enseignement. Lorsqu'il disait, même si tu avais toutes les connaissances du monde, même si tu travaillais le plus fort du monde, même si tu étais reconnu par tous les gens de l'univers, si tu n'as pas l'amour au-dedans de toi, tu es comme un airain et tu fais le bruit d'un tambour. Alors que l'amour vous habite et la mission prendra place par elle-même.
Alors avant même le début, que l'on commence cette session ce soir, j'ai senti l'énergie de Saint-Germain très forte dans cette salle. Et il y a une question qui est Saint-Germain, le maître du rayon violet?
Nous vous dirons que Saint-Germain, c'est celui qui se multiplie rapidement, qui a joué toutes sortes de rôles sur le plan terrestre. Il en a joué à travers celui qui se nommait Joseph, et qui était l'époux de Marie et le père adoptif de Jésus, ainsi que vos enseignements vous le disent. Vous pouvez avoir d'autres formes de pensée à ce sujet. Mais il était un homme humble et simple qui accomplissait sa mission tout simplement avec son rabot et le bois qu'il sciait et les pièces qu'il montait. Ensuite, il a joué le rôle d'un écrivain. Et nous vous dirons, il s'appelait Shakespeare à ce moment-là. Il a écrit des pièces qui avaient une résonance très puissante. Encore aujourd'hui, si vous les lisez, vous pourrez sentir cette résonance. Ensuite, il est venu. Il s'appelait le comte. Il était avec Madame de Pompadour. Et nous vous dirons qu'il allait un peu partout et il avait plutôt l'apparence d'un homme politique. Ce n'était pas important pour lui. Il avait déjà la conscience que la mission, ce n'est pas ce qui est important, mais c'est de se réaliser. Et c'est pourquoi il s'est réalisé dans autant de formes différentes et beaucoup d'autres encore. Nous vous dirons qu'actuellement, faisant partie du grand rassemblement des maîtres ascensionnés, il se tient très souvent au mont Shasta, dans les États-Unis d'Amérique, nous dirons dans la province de la Californie, ou l'État, vous dites l'État plutôt que la province. Et nous vous dirons que là, avec plusieurs maîtres ascensionnés, il fait des rencontres, des tables rondes, si vous voulez, et il prend des décisions et il distribue des tâches. Sa tâche de travailler avec le septième rayon, qui est le rayon du passage hors des plans de l'astral. C'est-à-dire qu'il travaille au septième étage, du septième étage des plans de l'astral. Vous savez qu'il y a sept plans dans l'astral et que chacun de ces plans contient 7 plans, alors voyez 49 étages. Lui, il travaille au 49e étage pour ouvrir des portes entre les plans de l'astral et les plans qui sont au-delà de l'astral, au-delà du 7e rayon. Et sa tâche est très importante parce qu'actuellement, sur le plan terrestre, c'est ce que la race humaine est en train de faire, sortir, nous dirons, de ces cristallisations et de ces encodages venus de ces plans de l'astral. Alors nous vous dirons, appelez-le avec la lumière violette, il viendra laver votre aura. Et nous vous dirons souvent, il travaille avec Brian Grattan, ou celui qui a incarné sur le plan l'énergie du Mahatma, et celui-ci travaille avec une grosse brosse dorée. Et ensemble, nous vous dirons qu'ils font du bon ménage.
Alors, il y a une question ici par curiosité. Quand on parle de l'énergie de Michael, veut-on dire que c'est Michael lui-même qui parle et peut-on associer sa présence à la fin d'un temps, comme le dit l'Apocalypse?
À la fin d'un temps?
Oui.
Et au commencement d'un temps. Car quelque chose qui finit fait toujours présager quelque chose qui commence. C'est comme lorsque la mère a fini ses 9 mois de grossesse. Ceci suppose une naissance, une libération pour la mère, nous dirons un cran d'évolution dans une nouvelle vibration aussi, et en même temps pour l'enfant. Alors, oui, Michael actuellement, Gabriel, Raphaël et Uriel travaillent à chacun des pôles ou des points cardinaux de la Terre, et ils travaillent de façon très étroite avec le Métatron et avec Saint-Malfon. Vous pouvez même parfois, si vous êtes ouvert à la visualisation, les voir aux 4 pôles et voir au centre, au sommet, là où est la source, le Métatron, et au centre de la Terre, ce Saint-Malfon merveilleux qui accepte d'endombrer l'énergie de la Terre avec Sanat Kumara pour permettre aux humains de pouvoir accoucher d'eux-mêmes. Alors, lorsque nous parlons de l'énergie de Michael, si vous en parlez par rapport au canal de la forme Louise, nous vous dirons que la forme Louise ne pourrait pas avoir la puissance de recevoir toute l'énergie de Michael, sans quoi son corps serait complètement consumé, puisqu'il est l'énergie de feu. Mais nous vous dirons, il accepte d'être canalisé partiellement par son énergie, c'est-à-dire qu'elle reçoit, nous dirons, dans la mesure de sa propre évolution personnelle. Étant donné qu'elle a choisi de faire la canalisation pour sa propre actualisation, nous vous dirons, plus elle évolue elle-même, personnellement, nous vous dirons, plus elle peut canaliser cette énergie puissante de Michael. Lorsque vous parlez de la fin des temps, vous parlez des temps actuels, c'est-à-dire des 50 années qui viendront et qui permettent, nous dirons, un grand transfert de la race humaine, nous dirons, en provenance de la race animale. C'est comme si l'être humain va être arraché à son animalité, non pas en termes de punition, mais en termes d'évolution. Et alors, il lui sera permis, ou il se permettra lui-même, de laisser sa conscience devenir tellement grande qu'elle pourra recevoir la connaissance. Il ne faut pas confondre la connaissance avec le savoir. Le savoir se situe dans le mental et dans l'intellect, alors que la connaissance, elle, se situe dans le cœur. Alors, nous vous dirons que Michael travaille de façon très étroite avec les autres archanges pour vous aider à créer le passage et à traverser les étapes nécessaires pour cette mutation importante de la race humaine. Aimez Michael, appelez-le dans votre énergie. Il y a beaucoup d'êtres qui sont sur le plan terrestre et qui canalisent déjà l'énergie des archanges, l'énergie de certains maîtres de la hiérarchie, l'énergie, nous dirons, du Mahatma. Certains parmi vous commencent déjà à la canaliser. Alors, ne vous inquiétez pas, S'il y a 100 personnes qui canalisent Michael, dites-vous bien qu'il ne canalise pas encore toute son énergie.
Comment expliquer et se débarrasser des saboteurs d'une mission artistique que sont la paresse et la peur?
En les accueillant. Si vous avez de la colère contre la paresse, si vous avez de la colère contre la peur, et que vous dites « je ne veux pas de ces énergies dans ma maison » et que chaque jour vous les mettez dehors, nous vous dirons « ils iront chercher leur armée, ils reviendront plus puissants et ils frapperont de nouveau à votre porte ». Mais si vous dites « cette paresse a quelque chose à m'enseigner, ce n'est pas par hasard qu'elle est là, il y a quelque chose, un besoin qui est caché derrière ma paresse, il y a quelque chose qui est caché derrière ma peur. Vous avez de ce côté la lune noire. Vous avez de ce côté la lune blanche. Et nous vous dirons lorsque vous regardez la lune noire, si vous dites « je hais la lune et je vais la décrocher du ciel et la jeter dans, nous dirons, dans un univers qui pourrait la bouffer », nous vous dirons « vous vous privez de la lune blanche ». Ceci, bien sûr, est une symbolique. Vous ne devez pas voir la lune de cette façon. Cependant, c'est pour vous montrer que derrière cette paresse et derrière cette colère, il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose de beau. Récemment, nous donnions un commentaire d'ouverture à un homme en lui parlant de son esclavage. Et à un moment donné, l'enfant qui s'approchait de lui lui dit « Est-ce que tu es fatigué de traîner des poids ?»« Bien sûr, lui dit l'homme. » Alors l'enfant prit le poids. Et il le mit sur les genoux de l'homme, et il lui dit, « Est-ce que tu pourrais accueillir le poids ?» L'homme eut de la résistance d'abord, puis ensuite il se dit, « Je n'ai rien à perdre. » Il prit alors le poids, il l'accueillit, il le remercia d'être là, il lui demanda de lui fournir l'enseignement, et tout à coup, cet immense boulet de métal se transforma en une plasticine merveilleuse qu'il pouvait lui-même transformer et sculpter à sa manière. Il dit à l'enfant, « Est-ce que je peux faire cela avec mes chaînes ?»« Bien sûr, lui dit l'enfant. » Et alors, l'homme se libéra. Si vous voulez, et que vous accusez la colère, et que vous accusez la paresse d'être des saboteurs, ils vous saboteront. Mais si vous les voyez comme une école d'enseignement, ils vous enseigneront, et si vous les accueillez, ils vous libéreront.
Il y a une question ici qui reflète beaucoup la masse, qui est « Comment savoir si j'ai une mission et quelle est-elle? » Vous avez déjà parlé que la seule mission véritable était soi-même, mais que pouvez-vous dire à cette forme d'égrégore qui est encore très omniprésent?
Nous vous dirons qu'actuellement, il n'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de gens qui cherchent une mission ou qui parlent de mission ou qui se donnent des missions, car sachez bien que véritablement, vous êtes des missionnaires. C'est que vous avez accepté cette fois de venir sur le plan terrestre et vous êtes très nombreux à être venus pour vous rassembler et créer le passage. Alors, vous avez la mémoire d'avoir écrit ceci dans votre contrat avant l'incarnation. Alors, vous venez ici et vous dites, j'ai quelque chose à faire, je sais que j'ai quelque chose à faire, j'ai la mémoire que j'ai quelque chose à faire. Mais pour que cette mission ou cet accomplissement d'unité puisse se réaliser, il faut, comme nous le disions précédemment, que vous reveniez à la maison, que vous construisiez votre propre maison intérieure, que vous vous centriez sur cette semence du divin à l'intérieur de vous. Si vous faites cela, vous n'aurez même pas besoin de chercher ce que vous avez à faire. On viendra vous chercher pour le faire. Mais tant que vous cherchez éperdument la mission, vous risquez fort bien de ne pas la trouver. Commencez par le travail d'accomplissement, de libération de votre corps émotionnel, de solidification de votre individualité, d'ouverture aux signes qui sont autour de vous. Et nous vous dirons l'accomplissement que vous ferez de votre propre personne, c'est-à-dire l'actualisation de toutes vos forces et de toutes vos puissances intérieures vont faire que tout à coup, les choses vont se faire toutes seules. Quelqu'un va frapper chez vous, il va vous dire, tu sais, j'ai un projet, j'aurais le goût de ne pas faire ce projet seul, je voudrais t'en parler. Et vous direz, ah bien, c'est étrange, j'ai rêvé à ceci il y a 5 jours. Bien sûr, là, nous créons un petit scénario, mais c'est ainsi que les choses se créent. Nous vous dirons, vous recevrez les messages par rêve, vous les recevrez dans le quotidien, chaque jour, et tout à coup, vous aurez la conviction ferme à l'intérieur de vous que vous devez accomplir telle tâche. Ceci sera tellement impérieux que vous ne pourrez pas y résister. Alors, abandonnez-vous, revenez à cette construction intérieure. Les choses se font d'elles-mêmes. Est-ce que vous croyez que la petite fleur, lorsqu'elle pousse dans l'arbre au printemps, se dit « Moi, j'ai une mission. Il faut que je devienne un fruit. » Pas du tout. Elle est une fleur. Elle se contente d'être une fleur. Elle fait partie du processus d'être une fleur. Elle émet le parfum de la fleur qu'elle est. Puis tout à coup, elle disparaît. Parce que ce n'est plus nécessaire qu'elle soit là. Les pétales tombent par terre et le petit bourgeon du fruit se développe. Et il se développe progressivement. Et à tout à coup, il devient à maturité. Et lorsqu'il est à maturité, vous n'avez pas besoin de tirer éperdument dessus. Vous n'avez qu'à tendre la main et il est là. Il en est de même pour ce que vous appelez la mission. Et vous savez, dans le salon, c'est très nourrissant pour l'ego de dire « j'ai une mission ».
Que pouvez-vous dire à ceux qui, par un grand amour à l'intérieur d'eux, disent « moi, ce que je veux, c'est aider les autres
». Nous leur dirons « écoutez le commentaire d'ouverture de ce soir et voyez que l'aide peut vous rendre esclave ». Et voyez que l'aide peut vous rendre libre. Si vous le faites pour être nourri, vous le ferez comme un esclave et vous vous nourrirez d'amertume. Mais si vous le faites par amour pour vous-même et par expansion de votre conscience et d'une expansion qui est tellement grande que vos parois, nous dirons les parois de cet être individualisé que vous êtes, commence à prendre tellement expansion que vous savez que votre frère, c'est vous, que votre sœur, c'est vous, que le chat, c'est vous, que l'arbre, c'est vous, que la totalité de tout ce qui est, c'est vous. Alors, vous ne serez pas là pour sauver les autres, mais vous serez là pour participer à votre propre expansion. Et c'est très différent.
Lorsque l'on pense au suicide, est-ce que cela peut venir de l'extérieur à nous et pourquoi?
Nous vous dirons ceci peut venir à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Il se peut que vous ayez la pensée du suicide parce que vous avez utilisé ce procédé dans une vie antérieure, là où vous étiez dans une situation insupportable et que cette mémoire soit encore dans vos encodages. À ce moment-là, il serait suggéré de fréquenter des personnes qui font des décodages thérapeutiques pour arriver à libérer ces énergies anciennes. Il se peut aussi que vous nourrissiez ceci par ego d'une certaine façon. C'est étrange à dire, mais nous vous dirons, il peut y avoir de l'ego dans dire « les gens ne m'ont pas vu, ils ne m'ont pas reconnu, eh bien au moins ce jour-là, ils me verront et ils parleront de moi. » Il se peut aussi que si vous fréquentez des gens qui parlent le langage du suicide, vous attiriez dans votre énergie des égrégores de gens qui se sont suicidés. Il se peut aussi que vous ayez cette pensée. pour être capable de la canaliser version lumière. C'est-à-dire, je comprends que tu viens à moi parce que tu as besoin d'être vu dans l'autre côté de ta, nous dirons, l'autre côté de ce que tu es. Alors, voici que moi, j'accepte que à l'intérieur de moi, cette pensée m'habite, mais je prends cette pensée, je la mène dans le cœur, et là je dis que tous ceux qui ont la pensée du suicide soient libérés. Alors il se peut que par amour, vous soyez rendus à canaliser cette énergie, sans que cela veuille dire que vous ayez à passer à travers cette énergie vous-même.
Présentement, je ne suis pas heureuse. Dans ma profession, je ne sens pas que j'accomplis quelque chose qui me permet de me réaliser. Vais-je dans l'année qui vient découvrir un sens à ma vie et changer de profession?
Nous vous dirons déjà ce soir, vous avez changé de profession en posant cette question, parce que vous êtes capable d'identifier votre malaise. Si vous identifiez le malaise et que vous comprenez ce qu'il vient vous enseigner, nous vous dirons, vous allez changer rapidement de profession. Mais si vous le faites par dégoût, si vous le faites parce que vous repoussez cette profession et que vous n'avez pas compris l'essence de ce que vous étiez venu y faire, vous allez changer de profession et vous allez vivre la même chose encore. Ce qui est important, c'est de saisir la motivation qui est cachée derrière le mouvement qui vous pousse à sortir de cette profession. Sachez bien que la profession la plus importante est la réalisation de vous-même et que vous pouvez le faire peu importe où vous êtes. Lorsque vous dites « je n'ai pas l'impression de me réaliser », alors nous sentons dans cette énergie que vous parlez de vous-même, c'est-à-dire que vous ne le faites pas à cause des autres, mais vous le faites pour vous actualiser. C'est pourquoi nous vous disons, vous pouvez prendre cette décision même ce soir, car nous sentons que déjà votre énergie est centrée sur l'actualisation de ce que vous êtes. Mettez ceci dans l'énergie, demandez à votre âme supérieure, elle sait exactement là où vous avez à aller. Mais il faudra enlever du mental toutes ces pensées. Ce n'est pas facile, ce n'est pas drôle, ce n'est pas joyeux. Tout à coup, je ne réussis pas. Il y a tellement de chômage, il n'y a plus d'emploi. Enlevez tous ces codes, passez par-dessus la porte et sortez, nous dirons, dans la lumière que vous êtes. Et vous allez trouver ce que vous cherchez. Nous vous accompagnons d'ailleurs.
Comment se fait-il que je me sente si facilement frustré alors que mon plus grand désir est l'amour inconditionnel, la compassion, l'accueil de tout ce qui est? Pourquoi est-ce si difficile d'atteindre cet état de grâce? Merci de tout cœur. Vous êtes ma consolation et mon espoir.
Alors, nous vous dirons que vous êtes en train de parler de vous. Vous êtes votre consolation et vous êtes votre espoir. Eh bien, tant mieux. Ce que nous allons vous dire, c'est que vous cherchez la lumière. Et cherchant cette lumière que vous appelez compassion et que vous appelez amour inconditionnel ou amour impersonnel, vous décidez d'ouvrir les écluses, d'ouvrir les fenêtres de votre maison pour que cette lumière puisse pénétrer jusque dans les petits recoins. Mais la lumière, lorsqu'elle entre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous montre que là, dans le garde-robe dont vous avez fermé la porte, il y a encore des petites souris qui veulent sortir. Elle va vous montrer que dans l'autre coin, il y a des choses qui sont restées là et qui ont moisi dans l'obscurité. Et alors vous, si vous vous arrêtez uniquement à regarder ces objets moisis ou ces petites souris, nous vous dirons, vous ne voyez que du moisi et que des souris. Mais si vous dites, c'est à cause de la lumière que ceci se produit, eh bien tant mieux, je vais faire le ménage, je vais m'observer dans ce qui me contrarie, je vais essayer de comprendre Pourquoi je crée cette contradiction, ce qu'elle veut venir m'enseigner, comment elle veut être maître de sagesse pour moi? Alors vous allez accueillir cette contradiction, vous allez la ramener dans votre cœur et vous allez dire à la lumière, je te remercie de me montrer les recoins que je ne voulais pas voir. Et il ne serait pas étonnant que nous vous voyons avec un seau et une petite vadrouille pour aller laver les planchers qui sont encore maculés.
Et peut-être aussi d'accueillir cette frustration par compassion
bien
pour
sûr.
Soi.
Et c'est la plus grande compassion, c'est celle que vous pouvez avoir pour vous-même. C'est pourquoi nous vous disons que vous êtes votre espoir. Accueillez-vous dans ce que vous êtes. Accueillez-vous dans l'état que vous traversez, sans jugement. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ce n'est pas d'être assis dans un grand nuage bleu au-dessus des autres et de dire bien facilement « je vous aime ». C'est d'être dans le trafic pendant que quelqu'un vient vous couper la route ou d'être à l'épicerie pendant que quelqu'un place son panier devant vous, d'être à la maison pendant que quelqu'un vient vous importuner. Nous vous dirons « là, vous avez l'opportunité de pouvoir vivre l'amour inconditionnel ». Mais si vous vous asseyez sur votre petit nuage, là, nous vous dirons, vous flattez l'ego dans le sens de son poil. Heureuse frustration, bénissez-les.
J'entends Saint-Germain qui applaudit.
Et Brian aussi, il danse la claquette avec son cigare.
Alors, la prochaine question... Les églises, entre parenthèses, la catholique. Que sera sa mission dans les années qui viennent? Les musulmans qui s'installent partout sur la terre, est-ce que l'on doit s'en inquiéter? Merci d'être parmi nous. Je vous aime.
Bien sûr, nous vous aimons aussi. Les religions ont leur raison d'être. Elles ont eu leur raison d'être. Nous vous dirons, c'est vous qui les avez créées. Ce ne sont pas des gens en dehors de vous qui avez créé les religions. Vous y avez tous participé collectivement parce que c'était un moyen et que c'était un passage nécessaire. Nous vous dirons cependant que les églises ont un grand besoin de purification comme chacun des êtres qui composent ces églises, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient orthodoxes, qu'elles soient musulmanes. Peu importe leur forme, elles ont besoin d'être purifiées, elles ont besoin d'être amenées dans la conscience. Maintenant, nous vous parlerons d'un futur qui n'est pas nécessairement rapproché, mais dans lequel il n'y aura plus qu'une seule religion qui sera la religion d'amour, et vous êtes en train de la créer. Et nous vous dirons que la loi de la résonance de la création de cette religion, nous mettons ce mot entre parenthèses, mais cependant nous vous dirons que religion, religere du latin veut dire relier. Alors est-ce que ce n'est pas cela que vous êtes en train de faire, de vous lier les uns aux autres, de vous retrouver dans la lumière, dans la conscience et dans cet amour dont vous parlez? Alors, bien sûr, les religions et ceux qui les représentent passent à travers des grands moments de purification, ainsi que les gouvernements, ainsi que les familles, ainsi que les couples, ainsi que les individus, c'est-à-dire toutes les structures qui sont sur le plan terrestre. Elles vont craquer dans le tremblement de terre, mais il y a déjà un terrain nouveau qui vous est assigné et des matériaux gratuits qui vous sont offerts. Et il y aura aussi des super architectes qui viendront vous montrer comment construire la Jérusalem céleste. Vous y participez déjà d'ailleurs. Alors ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas les musulmans vont nous envahir, qu'allons-nous devenir? Les choses sont déjà accomplies. Elles s'accomplissent dans la pensée de ceux qui croient que l'amour est la religion.
Je peux vous faire un peu de cette source?
C'est bien sûr. Merci beaucoup. C'est lourd. le cristal lourd qui contient le cristal liquide. Commencez à comprendre que vous ne vivez jamais rien seul. Vous êtes à l'intérieur d'un grand mouvement, d'une grande énergie qui fluctue, qui circule. Vous en recevez les vagues. Vous retournez aussi à votre tour des vagues. Mais étant donné que vous avez accepté, avant l'incarnation, d'être parmi les travailleurs de lumière qui vont se consacrer à ce nouvel, ne vous étonnez pas parfois qu'une émotion qui devrait, nous dirons, vous déranger à 4 ou 5%, vous dérange à 60 et 70%. Alors, à ce moment-là, accueillez cette émotion. Dites-vous, je la canalise pour moi-même, mais si je dois la canaliser pour mes frères, afin que plusieurs soient libérés par l'acceptation et l'accueil que j'en fais, alors nous vous dirons qu'il en soit ainsi. Vous n'avez pas besoin de savoir si vous canalisez pour vous ou si vous canalisez pour les autres. Nous vous dirons, ça c'est l'ego qui veut savoir cela. Mais l'âme supérieure, elle sait que jamais quelqu'un n'évolue sans que tout le reste de la race humaine n'évolue. Jamais quelqu'un se libère d'une émotion sans que tout le reste de la race humaine reçoive cette vibration et soit appelé à se libérer également de cette émotion. Commencez à voir que tout est interrelié. Rien n'est séparé, rien n'est divisé. Il n'y a pas les bons de ce côté-ci et les méchants de ce côté-là. Nous vous dirons, il y a des êtres qui sont complètement égaux, complètement semblables devant le regard de Dieu, mais qui vivent des expérimentations différentes. Alors, ne pas confondre le plan de l'expérimentation avec le plan de la conscience supérieure.
Comment avoir la certitude que je fais le bon choix dans les cours, les ateliers que je prends? Font-ils partie de ma mission?
Nous vous dirons, ils font partie d'un mouvement, tout simplement. Alors, si ce mouvement vous attire, si ce mouvement vous appelle dans l'énergie, allez-y, mais en même temps, soyez toujours vigilante pour être capable de discerner, nous dirons, quelle est votre intention. D'abord, vous allez peut-être comprendre que votre seule intention, c'est d'être avec des gens qui évoluent. C'est d'être avec des groupes qui commencent à s'ouvrir au niveau de la conscience, au niveau de la transparence, au niveau d'un grand changement intérieur, et que c'est cela qui vous attire. Alors nous vous dirons, allez-y sans vous questionner. Quand vous serez sursaturé, vous allez le savoir. Lorsque vous vous mettez à table, est-ce que vous dites, comment est-ce que je saurai avec certitude que je mange exactement la portion dont j'ai besoin? Vous ne vous posez pas cette question, mais si à un moment donné, au milieu du plat que vous êtes en train de manger, vous n'avez plus faim, vous ne le mangerez pas. Vous allez pousser votre assiette. Ceci ne veut pas dire que le mets n'est pas bon. Ceci ne veut pas dire que celui qui l'a fait n'était pas un bon cuisinier. Pas du tout, mais ceci veut dire que vous écoutez l'horloge intérieure. Qu'il en soit ainsi pour tous les ateliers que vous suivez. Et vous savez, les ateliers sont actuellement des lieux de transformation. Ils sont des lieux de contact. Ils sont aussi des lieux, nous dirons, de rassemblement de la race de lumière. C'est pourquoi tant de gens veulent y participer.
Comment accueillir plus largement l'incertitude dans ce cas?
Nous vous dirons, l'incertitude, elle est nourrie par l'ego. Alors, dit à l'incertitude, tu te caches derrière la porte, mais je te vois. Viens me voir, nous allons nous parler. Assoyez-la sur vos genoux et dites-lui, qu'est-ce que tu viens faire dans ma maison? Est-ce que tu viens m'épier? Est-ce que tu viens me pousser dans le dos? Est-ce que tu viens me dire que je n'ai plus besoin de tes services? Parle-moi et elle vous dira ce qu'elle vient faire chez vous. Peut-être que vous n'avez plus besoin de ses services. Peut-être aussi que vous en avez encore besoin si vous n'avez pas compris pourquoi vous nourrissez l'inquiétude.
Alors, il y a deux questions qui se chevauchent ici. Le centre de lumière, on parle depuis 2 ans de la création d'un centre de lumière et particulièrement un dans les Laurentides. Cependant, on dit qu'il y en aura 7 dans le Québec. Pouvez-vous élaborer davantage sur ces centres et quelle sera leur fonction? Qu'est-ce qu'on va y faire? Quel impact ces centres de lumière auront sur la planète? Quelle préparation devons-nous faire pour que ces centres fassent leur apparition?
Oh là 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 là!
Et une autre question qui s'apparente à celle-ci, j'ai lu quelque part qu'il y aura présentement sur Terre 7 centres intergalactiques. Le nombre est-il exact? Serait-il possible que les bases Laurentides, et j'ose dire plus précisément, la région de Saint-Sauveur et les alentours, aient déjà ou seraient dans un avenir très proche un de ces centres?
D'abord, nous allons vous dire que ces centres, ils sont déjà créés. C'est parce que vous ne les voyez pas. C'est parce que vous n'avez pas encore l'œil qui voit à travers l'invisible. Nous vous dirons que ces centres, ils existent. Vous les appelez intergalactiques. Vous avez raison d'une certaine façon. Nous vous dirons qu'ils sont logés dans des régions différentes du Québec. Ce n'est pas important que vous sachiez comment cela se fera, à quel endroit, comment devez-vous vous préparer. Si vous voulez vous préparer, accueillez déjà qu'ils sont là. Accueillez déjà que vous avez participé à leur construction et à leur élaboration. Acceptez déjà que là où vous n'êtes pas dans la conscience matière, c'est-à-dire dans le 80% de vous qui est déjà dans la lumière et qui travaille quotidiennement avec la hiérarchie, vous avez participé à en former les plans. Lorsque les choses devront se faire, elles vont s'accomplir d'elles-mêmes. Les choses vont et elles commencent déjà. Nous vous dirons, dans le Québec, il y a déjà un grand mouvement qui est en train de se faire. Mais pour être capable d'établir ces centres, il faut que le Québec soit individualisé. Alors, il est encore dans la bataille entre la race française, entre la race anglaise, entre lui-même et son individualisation, et sa mère qui le garde lié au cordon ombilical et qui en même temps ne veut pas trop le nourrir parce que quand même il est assez grand pour laisser le sein. Mais tant que cette bataille ne sera pas terminée, c'est-à-dire tant que cette individualisation ne sera pas faite dans la conscience des gens qui sont ici, mais elle se prépare, elle est en train de construire ses bases de façon très importante. Ne pensez pas qu'au Québec surgiront ces centres de lumière. Ils sont déjà là, nous le répétons, ils sont déjà là. Oui, la région de Saint-Sauveur est une région où il y a beaucoup déjà d'êtres qui sont éveillés. Plus cet éveil est grand, plus cet éveil se manifeste dans la conscience, nous vous dirons, plus le centre se localise géographiquement. Bien sûr, les centres seront là où il y a des rassemblements de conscience. Lorsque vous dites comment nous préparer, ce que vous faites ce soir est déjà une préparation. Ce que vous faites quotidiennement, de vous rassembler, de savoir que vous êtes liés les uns aux autres. Nous dirons de vous rassembler pour prier ensemble ou pour méditer ensemble. Ou nous dirons tout simplement pour faire la fête ensemble, sabrer le champagne ensemble. Nous vous dirons que ces rassemblements, que nous appelons les rassemblements de conscience, sont importants. Ensuite, les choses de la matière vont se réaliser d'elles-mêmes. Nous vous dirons, ces centres de lumière auront des formes pyramidales. Pas nécessairement des formes pyramidales dans la matière, pour certains, mais nous vous dirons les formes pyramidales, l'énergie des formes pyramidales vous sera enseignée de façon très claire après les années 2002. Vous allez dire pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a, nous dirons, la plus grande vague sera passée et alors nous vous dirons, il y aura tellement de lumière que nous dirons, l'obscurité ne saura plus par où venir essayer de vous embêter ou de vous obstruer le chemin ou ainsi de suite. Et alors nous vous dirons, en ce moment-là, vous allez vous regrouper, vous allez savoir ce qui est à faire, vous allez savoir pourquoi vous le faites, mais avant ceci, il y a de grandes transformations qui se feront au niveau politique, au niveau monétaire, au niveau de la santé et au niveau sexuel. Nous avons déjà parlé de ces grandes vagues, elles sont là actuellement de façon très présente et plus vous devenez conscient personnellement, nous vous dirons, plus vous accélérez le mouvement. Et sachez bien qu'il y a actuellement autour du plan terrestre des êtres de lumière qui ont comme mandat d'être des accélérateurs. Cette accélération, elle se fait d'abord dans votre système nerveux. Elle se fait d'abord dans votre système de conscience, si nous pouvons appeler ceci un système. Elle se fait d'abord par le lâcher prise de tout ce que vous avez connu dans l'ancien. Parce que là, si vous voulez maintenant construire, vous allez construire avec la pensée ancienne. Il faut accepter de voir que votre pensée va se transformer complètement et que vous allez vers une pensée qui est tout à fait nouvelle. Nous dirons penser au niveau des quatre éléments dont nous avons parlé précédemment. Mais si vous voulez savoir si Saint-Sauveur est un lieu, nous vous disons que oui.
Vais-je rencontrer un partenaire de vie dans l'année qui vient?
Ça, c'est très amusant. Nous vous souhaitons d'abord de trouver le partenaire intérieur, celui qui vous habite le plus profondément, celui qui est le divin. Et nous vous dirons qu'il, lui, ne lâche jamais, ne quitte jamais, n'a pas besoin de coups de foudre, n'a pas besoin d'exaltation, n'a pas besoin, nous dirons, d'être là à répondre à des besoins immédiats auxquels vous pouvez répondre vous-même. Il est là, toujours présent. Si vous vous tournez vers vous-même et que, consentante à ce que votre âme vous demande, et que vous dites, si cela est le plus parfait pour moi, qu'il y ait quelqu'un sur ma voie, ce quelqu'un se présentera au moment où vous ne l'attendrez pas. Mais si vous dites, est-ce que cette année, moi, je vais avoir un partenaire, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous créez une obsession dans votre énergie. La meilleure manière de ne pas recevoir quelque chose, c'est d'être dans l'obsession. Est-ce que c'est clair? Alors, enlevez, tournez la page.
Ou changez de partenaire. Alors, la prochaine question, j'aimerais avoir une définition de l'intuition et de l'imagination. Comment faire la différence quand on débute dans une démarche de conscientisation?
Nous vous dirons, viendra un temps où vous ne ferez pas de différence. Parce que l'imagination, vous savez, vous l'avez beaucoup condamnée. Lorsque vous étiez un petit enfant et que vous disiez, « Maman, je sais que j'ai vu quelqu'un derrière la maison » et que votre maman vous disait, « Ça, ce sont des tralala. Tu n'as vu personne, c'est ton imagination. Fais taire ton imagination. » Alors, vous avez appris que l'imagination, c'était la folle du logis. Comment voulez-vous, si vous l'avez traitée ainsi, que vous puissiez comprendre comment elle travaille en harmonie avec l'intuition? Regardez le peintre qui se retrouve devant sa toile vide et que tout à coup, il dit, « Là, je vois un soleil. » Vous allez dire, « Moi, je ne vois rien. » Et vous avez raison, puisque la toile est blanche. mais lui déjà, avec son imagination, nourri par son intuition qui est un mouvement, il est capable d'aller chercher une résonance à l'intérieur de lui et déjà la voir, même si dans la matière, il ne l'a pas créée. Nous vous dirons que l'intuition, c'est un mouvement très spontané. Et que lorsque... Mais nous vous dirons, dans votre question, il y a un petit piège. Nous vous expliquerons quel est ce piège. C'est que quelque part, vous voulez savoir quelle est la différence entre l'intuition et l'ego. Vous ne voulez pas savoir quelle est la différence entre l'intuition et l'imagination, puisque l'intuition et l'imagination sont sœurs jumelles et elles sont tellement semblables que vous ne pouvez pas les différencier. Mais votre ego, lui, il se dit quelque part, peut-être que c'est mon imagination et que les messages que je reçois, ce n'est pas vrai. Alors nous vous dirons, dites à votre ego, je te paye les vacances en Floride. Et vous, accueillez ce qui vous vient. Si c'est une imagination avec, nous dirons, la petite perception égoïque que vous en avez, votre âme supérieure va se charger de vous la montrer. Elle va se charger de vous rendre ceci palpable. Alors comprenez bien que si vous arrêtez les mouvements qui sont à l'intérieur de vous, si vous dites par exemple, moi je sais que je devrais faire un voyage à tel endroit, et ensuite vous dites ça, j'ai imaginé ça, ça, je ne dois pas tenir compte de cela, et vous remettez ceci, et vous n'y allez pas, alors peut-être que là, vous attendez précisément ce prince charmant que vous cherchez depuis si longtemps, ou que vous attendez exactement l'espace dont vous aviez besoin pour vous recontacter, ou que vous attendez une rencontre fortuite qui pouvait transformer votre vie ou vous permettre de libérer un aspect karmique important. Alors nous vous dirons, écoutez le mouvement intérieur et ne laissez pas l'ego s'en mêler. Payez-lui les vacances.
Que signifie pour vous le cœur cosmique?
C'est l'amour total de tout ce qui est. Nous vous dirons, Brian Grattan a beaucoup donné d'enseignements sur le cœur cosmique et ce sera le dernier enseignement que nous donnons ce soir. Nous vous dirons, il vous a fait comprendre que chacun d'entre vous, vous étiez comme une flamme, mais que si toutes ces flammes étaient rassemblées sans aucune pensée de division, et dans cette pensée plutôt d'une égalité et d'une totalité parfaite, alors vous sentiriez battre le cœur du cosmos et des univers tout entiers, parce que vous faites partie de ce grand cœur cosmique. Il n'est pas à l'extérieur de vous, vous en êtes une cellule, et votre frère, et votre sœur, et vos amis, et vos conjoints, et ceux qui sont là-bas, et ceux qui sont dans l'astral, et ceux qui sont ailleurs, dans d'autres dimensions, en font partie aussi. Lorsque vous serez devenu tellement attentif à votre peur, à votre propre cœur, vous allez commencer à entendre battre le cœur cosmique. Vous allez commencer à recevoir des messages qui viennent, nous dirons, de Vénus peut-être, ou qui viennent de Sirius peut-être, ou qui viennent des archanges peut-être, ou qui viennent de vos frères qui sont dans l'astral, qui ont besoin d'aide. Vous entendrez battre tous ces cœurs qui veulent en réalité ne faire qu'une seule grande chorale, qu'une seule grande manifestation du divin. Alors le cœur cosmique, ce n'est rien qui est en dehors de vous, c'est une partie de vous, vous vivez dans ce cœur. Il vous nourrit, il vous permet de penser, il vous permet d'être, il vous permet de vous manifester, il vous permet de créer, il vous permet d'être dans cette énergie qui est sans fin, qui n'a pas de limite, qui est comme la mer cosmique. Et nous vous dirons, buvez, allez vous installer dans ce cœur, allez vous bercer dans ce cœur, appelez l'énergie de toute la création dans ce cœur, afin que l'amour soit votre bouclier et afin que l'amour soit victorieux sur le plan terrestre. Alors nous vous dirons ce soir, nous étions heureux d'être parmi vous dans cette ville appelée Saint-Sauveur. Soyez sauveur de vous-même, soyez sauveur de votre propre énergie. Et nous vous dirons, ne vous donnez pas de mandat qui nourrisse l'ego, mais ouvrez-vous à ce grand cœur cosmique, à cette grande énergie qui n'a pas de fin et qui ne fait que commencer à se manifester à vous. Alors que la paix, que la joie et que la sérénité vous habitent à jamais. Amen.
Alors nous remercions le chariot blanc. Nous remercions cette réflexion de cette conscience supérieure qui vient nous refléter un état de conscience dans laquelle nous sommes et que nous n'avons qu'à recevoir et à accueillir. Alors veuillez procéder, s'il vous plaît. Et pendant ce temps, je vais inviter. Je vais inviter les gens. Invitez les gens à chanter le son, le souffle et la lumière. En tenant bien compte que quand je dis je suis le son, c'est que j'affirme que je suis l'énergie du Père. Le souffle, l'énergie de l'Esprit. Et la lumière, qui est l'énergie christique, qui veut dire l'énergie de cette conscience supérieure. Je suis le son, le souffle.